Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec Tilman Robel, il est spécialiste du jean. Bonjour Tilman.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Alors, voilà, Tilman Robel, je suis, bon, sur mon Wikipédia, il y a écrit franco-allemand, alors je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne, j'ai un nom de famille un peu polonais, bien que ça doit faire 5 générations que tout le monde vit en Allemagne, et je suis parti, enfin non, disons plutôt, je suis à la tête du bureau de style Monsieur T, que j'ai fondé en 2007. Le bureau de style est spécialisé dans le jean et nous travaillons à l'international pour des marques, des fabricants de tissus et des salons. Et en fait, en gros, notre cœur de métier, c'est les tendances, c'est le produit, le développement de produits, mais aussi la scénographie, le marketing denim, le social media denim pour nos clients. À partir du moment où quelqu'un a besoin de vraiment comprendre le langage du denim, qu'il soit visuel ou par texte, et qu'il a besoin de promouvoir ou améliorer son produit denim, que ce soit un salon, un tissu ou un pantalon ou une veste, il peut faire appel à nous et nous sommes là pour l'aider.
Très bien. Et avant 2007, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, comment tu t'es formé, comment tu as appréhendé le monde du jean, comment tu as fait ton expérience, etc.
Alors, j'ai une expérience un peu atypique. CV un peu atypique. Je suis arrivé à Paris, j'ai fait en 85, ça date déjà un peu, 85-87, l'école de la haute couture, où je suis sorti avec plusieurs prix, première place, prix comité Colbert, etc. Et droit, avenue Montaigne, chez Nina Ricci, j'ai bossé un peu chez Dior, je suis passé aux 20h en Allemagne, comme le futur Karl Lagerfeld, etc.
Ah oui. Et tu faisais de la couture.
De la couture, oui. De la couture. D'accord. Pour les petites princesses qui voulaient des robes
génial.
Avec plusieurs zéros avant la virgule. en revanche, une fois que j'étais dedans, dans cette tour d'ivoire, ça m'a, à l'époque, pas tellement plu que ça, parce que j'avais des vraies racines un peu rue, streetwear, racine skate, etc. J'étais skater. Et puis, je me suis, pendant mon temps dans la haute couture, un peu engagé dans le milieu du skate, où j'ai monté avec des copains le premier grand club indoor à Versailles, etc. J'étais dans la direction de la Fédé de skate, juge à toutes les coupes d'Europe, etc.
Ah ouais, et, d'accord.
Et donc, quand je lâchais mon costard haute couture et que j'arrivais en bas avec à l'époque des pantalons tie-dye et des têtes de mort et des machins, il y avait un espèce de clash culturel qui a fait que, à la sortie de la couture, j'ai assez rapidement bifurqué là-dedans. J'ai fait l'une des premières collections textiles pour Ethnies, ça n'a pas trop marqué le monde parce que tout le monde a retenu les autres designers de chaussures, etc. J'y étais. Idem, il y avait un pendant en Allemagne qui s'appelait Homeboy, qui faisait des vêtements pour tous les skateurs professionnels en Allemagne, pour qui j'ai un peu bossé. Je suis arrivé à la montagne à travailler pour une petite marque de vêtements de snowboard, parce que c'était le démarrage du snowboard à l'époque. où voilà, bon, tout, comme tout bon Parisien, je débarquais. À l'époque, j'avais des dreadlocks et puis on se jetait dans les half-pipes avec les premières planches de snowboard freestyle. Et je faisais des vêtements un peu à côté pour la montagne, semi-technique. Je vivais, enfin, je connaissais tout le monde, les petits champions par-ci, les skateurs pro par-là. Et avec ce background-là, j'ai été attrapé par une marque de jeans
D'accord.
qui, à l'époque, était à Carcassonne, qui s'appelait Chippy,
Ah oui.
qui, aujourd'hui, on se rappelle que des produits licence, les classeurs au supermarché ou éventuellement les colliers de chiens. Mais à l'époque, c'était une flamboyante marque de jeans pour laquelle, en fait, travaillaient les meilleurs designers au monde et avec lesquels j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris sur le jean, voyagé le monde et j'ai rentré un peu cet esprit streetwear, skatewear dans le milieu du jean à cette époque-là. Et puis j'ai été ensuite chassé par le groupe Quicksilver qui disait mais enfin, comment ça se fait? Il paraît que tu maîtrises grave le jean et le sportswear, tu viens de la haute couture et en même temps bah, tous nos riders professionnels en Europe, ils parlent de toi parce qu'ils te connaissent, parce que tu fais du snowboard avec eux ou parce que tu les as vus à une coupe de France de skate ou je sais pas quoi. Et voilà, et c'est comme ça que je suis rentré chez Quick, où je me suis occupé tout d'abord de toute la collection Europe, donc Quicksilver, Roxy, avec un peu plus que 20 personnes dans mon bureau de style.
D'accord.
Bon, après, peut-être fait quelques erreurs de jeunesse, j'étais très motivé, j'ai foncé dans tous les sens, et puis... Après, je me suis un peu calmé avec des missions plus précises chez Quicksilver, où en fait, je me suis assez rapidement concentré sur tous leurs jeans. Et c'est là que j'ai fait les jeans aussi bien pour DC Shoes, pour Rossignol, pour Quicksilver, pour Roxy. Et ça a bien cartonné.
Génial.
Et c'est fort de toutes ces multiples expériences que j'ai fondé mon bureau en 2007.
D'accord.
Voilà.
Excellent. Est-ce que tu pourrais nous... Enfin, moi, j'ai plein de questions à te poser, bien sûr, mais je trouve que le jean, c'est un sujet que dans mon podcast, on n'a pas encore trop abordé. Est-ce que tu peux nous faire une, comment dire, une espèce de cartographie du monde du jean, parce qu'aujourd'hui tout le monde porte des jeans, des États-Unis jusqu'en Chine, en passant par l'Europe, en passant par l'Afrique et le nord du monde. Tout le monde porte du jean, c'est le produit le plus vendu au monde, mais c'est aussi le produit qui est vachement décrié sur la dimension pollution. C'est à la fois un produit qu'on adore et qu'on déteste et est-ce que tu pourrais essayer de nous faire, je sais pas, une petite synthèse de, déjà peut-être de l'histoire du jean et de, comment, du rapport de force internationale sur le jean, qui sont les principaux acteurs et qu'est-ce qui fait un bon jean finalement?
Bon, dis donc, là, je suis parti pour 3 heures, là. C'est un vaste sujet que je raconte à tout le monde qui m'écoute, peut-être un jour autour d'un verre, autour d'un bon whisky japonais en détail. Mais on va déjà un peu essayer de dresser le truc. Alors, l'histoire, figure-toi que tout le monde pense que ça vient des États-Unis, mais pas du tout. En fait, les premières traces de l'indigo et du vêtement de travail fait en indigo, bah, on les a trouvées 6 000 ans avant Jésus-Christ au Pérou. A trouvé en Mandchourie. On sait que le Japon, le Bangladesh, l'Inde sont des pays où des vêtements en indigo, notamment pour le travail, ont été utilisés longtemps avant que le petit Jésus-Christ soit né. On sait aussi que les Japonais avaient d'autres vêtements de travail, mais cette fois-ci en blanc, qui, une fois arrivés à la fin de leur vie, les petits lambeaux étaient recousus et sureteints en indigo, ce qui donnait les fameux boros qui, aujourd'hui, en forme de plaid ou en forme de vêtements peuvent valoir plusieurs centaines de milliers d'euros quand on en trouve un et qu'on arrive à l'acheter. De là, en fait, moi j'ai discuté avec la directrice de la partie textile de l'université de Venise, qui, elle, a trouvé des écrits datant de 1400 et quelques, où dans ces écrits, des fabricants de tissus indigo, de ce qu'à l'époque on appelait la tela di Genova, se plaignaient de la concurrence allemande, des fabricants allemands de ce tissu en indigo pour le travail, et comme quoi tout le monde baissait les prix et que c'était insoutenable, bon, comme quoi depuis 1400 et des brouettes et aujourd'hui, les sujets sont toujours les mêmes, on n'a pas beaucoup évolué, mais on sait que cette fameuse travail de Gênes, elle existe depuis très très longtemps. Alors après, il y a des choses qui se contredisent. Alors il y en a qui disent que la matière a été faite donc dans le sud de l'Allemagne, dans le nord de l'Italie, et expédiée via la ville de Gênes, donc Genova, à l'époque Gênes parce que Napoléon y avait mis les pieds, ça c'était pendant un petit moment français. Et c'était expédié non aux États-Unis, mais en Angleterre. Et c'est en Angleterre l'Angleterre qui était à l'époque le plus gros fabricant de vêtements de travail, que les gens achetaient cette matière. Et comme ils n'arrivaient pas à dire gêne, en fait, ils disaient jeans. Et c'est comme ça que le terme jeans est arrivé. Et puis, ce n'est que quelques centaines d'années après qu'à Nîmes, on a commencé à utiliser cette matière, mais avec un tissage sergé, twill en anglais, et que ce tissage spécifique était encore un peu plus costaud qu'on utilisait pour des tentes, etc. Lui est parti de Nîmes via Gênes à San Francisco pour la grande course à l'or et les vêtements de travail en Californie, etc. Et que c'est là qu'est arrivé le grand mythe qu'aujourd'hui tout le monde connaît de cet Allemand qui s'appelait Monsieur Loeb et qui est parti aux États-Unis. Et à la frontière, on lui a dit Non, mais tu ne vas pas t'appeler Loeb, personne ne sait prononcer ça ici, tu ne peux pas te choisir un autre nom. Et là, il a dit je n'ai qu'à m'appeler Lévis. Et voilà. Et donc, Monsieur Lévy est né, entre guillemets, aux États-Unis, donc une bonne famille d'Allemands qui a commencé à faire du vêtement de travail là-bas. Et Monsieur Lévy était très très doué pour le marketing, donc c'était le premier qui écrit en gros sur les cartons le nom de sa marque sur ses jeans. Et puis il a rencontré un petit tailleur qui s'appelait Jacob Davis, qui avait lui un petit brevet qu'il voulait déposer et qui s'est dit tous ces jeans, ils se déchirent tout le temps, surtout au niveau des poches, quand on met les mains dans les poches et tout ça, et si on mettait un petit truc en métal pour fixer les matières ensemble, Monsieur Lévy lui a payé le brevet pour déposer le rivet, l'invention du rivet, voilà. Et comme Monsieur Lévy avait payé le rivet et qu'il savait très bien écrire son nom sur les jeans, Monsieur Lévy en s'en rappelle, puisqu'on en porte des jeans de lui quasiment tous. Et Monsieur Davis, on l'a oublié.
C'est horrible.
Voilà, c'est horrible.
C'est comme ça, Monsieur Lévy.
Voilà. Et entre-temps, évidemment, il y avait plein d'autres marques autour, qui avaient d'autres brevets avec des points d'arrêt, des zigzags, des bidules pour rendre les pantalons costauds. Et puis de là, c'est devenu un produit un peu des militaires, donc avec une grosse connotation de « waouh, c'est génial, c'est les militaires », puisque les Américains ont libéré un peu l'Europe contre les Allemands avec un produit fait par un Allemand. Je diverge.
À quel moment le jean, le blue jean ou le jean Davis s'est démocratisé et est devenu l'essentiel du vestiaire de tout le monde en fait. Aujourd'hui, enfin, je connais pas quelqu'un qui ne porte pas un jean tous les jours, au moins 4 jours par semaine, quoi.
Bon, c'est vers les années 70-80, avec la vague des hippies, etc. Une fois qu'on avait fini cette période des blousons noirs et de l'interdiction des jeans à l'école, parce que c'était un peu le signe des méchants, des loubards, etc. Après, c'est devenu vraiment autre chose. Et c'est aussi parce qu'on avait trouvé des manières de fabriquer la matière un peu moins chère, un peu moins durable, un peu moins costaud. Et donc, plus accessible, que tout ça, ça s'est développé. Je crois que ce qui est intéressant à savoir, c'est que aujourd'hui, l'industrie du jean pèse 30% de plus que toute l'industrie de la musique dans le monde entier.
Ah ouais, c'est pas mal. C'est énorme.
Hein ? Donc ça c'est, on a du mal à s'imaginer, mais quand même. Pourront toujours beaucoup chanter et sortir beaucoup de tubes sur Spotify et Apple. Le jean fait quand même beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires, à savoir qu'aujourd'hui, sont fabriqués dans le monde entier, on estime, hein, parce qu'on n'arrive pas à mettre tout le monde sur la table pour donner les bons chiffres, et qu'on ne sait pas trop où commence le jean, où ça s'arrête, hein, 5 poches, est-ce qu'il est toujours bleu, est-ce qu'il peut être blanc, noir, gris, etc. Mais on estime la fabrication mondiale à peu près 1,5 milliard de jeans par an.
Ce qui est quand même pas mal, ce qui est énorme. Comment se répartit et comment ce gros gâteau là est partagé entre les différentes parties du monde?
Bon, on a des pays qui consomment. Dans les pays qui consomment le plus de jeans, on a des pays comme la Hollande. Après, on a des manières de porter le jean très différentes. Tu vois, par exemple, là aux États-Unis, c'est un produit très pain quotidien, c'est-à-dire vraiment le truc qu'on va mettre pour laver sa voiture le dimanche, etc. Je parle de l'Amérique profonde, hein. Je ne parle pas des deux exceptions, Los Angeles, New York, ou éventuellement Miami, mais en Amérique profonde, c'est vraiment le vêtement un peu quelconque. Et d'ailleurs, on voit que les grands acteurs du marché américain adaptent leur communication vraiment en fonction sur ce marché-là. Après, bon, il y a l'Europe, etc. Et puis, ce qui est surtout très rigolo, c'est que, mais à l'instar du western, tu sais, le western, donc ces films nés aux États-Unis, on a vu John Wayne, etc., se tirer dessus en cow-boy, etc. Il y a eu ensuite le spaghetti western, où on a vu Clint Eastwood et tout un tas d'Italiens déguisés en Américains. Jouer au cow-boy de manière beaucoup plus excessive, plus dans le cliché, mais parfois aussi un peu mieux fait. Et ben dans le jean, on a eu la même chose, c'est-à-dire on a eu, fin des années 80, l'avènement du jean italien. C'est, d'un coup, non seulement les fabricants, mais aussi les marques, etc. Tous les Italiens savaient mieux faire le jean que les Américains, avec peut-être plus d'idées, plus de style, plus ceci, plus cela. Et un peu comme le western spaghetti, moi je dis toujours, on a eu un peu le denim spaghetti. C'est-à-dire, il était aussi très fort en couleur, très, peut-être des fois un peu too much. Et c'est début des années 2000 que peut-être les Scandinaves, etc., ou les Japonais avec un goût un peu plus puriste, etc., en rappelaient un peu au monde que bon, le jean avec des paillettes et des machins et des délavages surfaits et resurfaits, c'était peut-être pas que ça, qu'on pouvait aussi porter un jean un peu plus normal, un peu plus passe-partout, un peu moins voyant, voyeur.
Et qu'est-ce qui fait un bon jean ? C'est quoi un bon jean ?
Alors, moi personnellement, j'ai toujours une conviction qui est avant tout un bon jean, c'est une bonne matière, une bonne confection. Une bonne matière parce que le jean est fait aujourd'hui encore à partir de coton. Le coton, Il en existe différentes qualités. Voilà. On va aller même jusqu'à la fibre. Tu vois. Par exemple, si tu achètes une paire de chaussettes tennis qui sont souvent faites à partir de coton recyclé, donc ça a des fibres très courtes, ça devient vite très pelucheux, ça perd un peu sa forme, etc. Bon, on peut utiliser ce même coton pour faire un jean un peu pas cher. La matière va vite perdre sa forme, le coton il est pas résistant, enfin je parle même pas de mettre des trous dedans, c'est juste aussi que quand tu le mets sur les fesses il va ressembler à un
grand toilette, ouais.
Ouais. Et de l'autre côté on a du coton de très très bonne qualité qui est parfois dans des pays qu'on ne s'imagine pas forcément tout de suite comme ça, spontanément. Alors ça, tu vois, par exemple, le Pakistan est très connu pour une très très bonne qualité de coton. Le Zimbabwe est le nec plus ultra du coton avec une fibre très longue. Alors là où le coton recyclé va avoir une fibre qui fait un petit centimètre, celui du Zimbabwe, il va avoir 4, 5, peut-être même 6 cm de longueur de fibre. Et donc, quand tu enroules du fil, quand tu fais du fil à partir de ça, tu as forcément une autre résistance qu'avec une merde. Et donc, quand on tisse bien de manière très compacte, avec des fils très denses et avec une très bonne qualité de coton, on fait un très beau jean. Si ensuite on utilise des bonnes machines à coudre avec du bon fil, on fait un très beau jean. Si derrière on le délave et on le vend pré-délavé, forcément on l'altère un tout petit peu. Donc pour moi le meilleur jean c'est forcément un jean brut, mais il n'est pas commercialement forcément le meilleur. Mais c'est pour celui qui aime bien le porter le truc top du top.
Et qu'est-ce que tu en penses de... Alors, est-ce qu'un jean est forcément en coton ou est-ce que on entend parfois des gens mettre du chanvre dans leur jean ou mettre d'autres fibres ? Toi qui es puriste mais quand même ouvert d'esprit, qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Alors, le chanvre est devenu assez rapidement un raccourci pour dire je suis dans le développement durable. C'est vrai que le chanvre a l'avantage d'utiliser moins d'eau, moins de pesticides, etc. Donc on peut faire des jeans avec du chanvre, puisque le chanvre est vraiment très très proche, au niveau du coton, ça, personnellement ça ne me dérange pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que le chanvre ne se tisse pas de la même manière que le coton. C'est en fait, en tissage, dans les métiers, on a un peu plus de difficultés parce qu'il est un peu plus dur, on n'arrive pas à le rendre aussi souple. Donc souvent, le chanvre est mélangé avec beaucoup de coton et ce n'est pas parce qu'on utilise du chanvre que forcément on est dans le côté écologique. C'est si le chanvre est maltraité ou si la partie coton qu'on y ajoute a utilisé je ne sais pas combien de centaines de litres d'eau. C'est... Comme beaucoup, c'est pour moi un sujet très important, l'écologie et le développement durable. Et je me méfie toujours des phares qui nous éblouissent avec des lumières pour cacher ce qui est derrière. Sur le principe, le chanvre, je trouve que c'est une très bonne chose.
Parlons d'écologie et de sustainability. Aujourd'hui, les chiffres... Enfin, ce que j'ai lu récemment, c'est que pour fabriquer un jean, il fallait 10 000 litres d'eau, je crois. Corrige-moi si je dis une bêtise. Comment est-ce que cette industrie du jean, et je crois qu'elle a vachement bougé ces dernières années parce qu'elle était très décriée justement, comment on en fait une industrie plus durable, plus sustainable, sans prendre des raccourcis qu'on peut souvent entendre dans l'industrie de la mode où, partir sur du recyclé, est-ce que le recyclé c'est une solution? J'en suis pas certain non plus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quelles sont les pistes que tu peux développer?
Alors, déjà, je n'ai pas encore entendu une seule personne avancer les mêmes chiffres sur l'utilisation de la quantité d'eau pour un jean. Alors, je connais des gens très très crédibles qui disent qu'il faut 600 litres d'eau. Bon, sachant que pour faire planter un avocat et faire trois toasts à l'avocat, il faut 350 litres d'eau. Dans ce cas-là, 600 litres d'eau pour un jean, c'est pas la, entre guillemets, pas la fin du monde, ou au contraire, c'est l'avocat qui est peut-être le fruit à éviter,
ouais.
Ou les légumes à éviter, parce qu'il consomme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, mais personne n'attaque l'avocat. Le gin, c'est plus facile à attaquer parce qu'on a toujours l'impression que c'est une industrie qui se sucre, qui se fait beaucoup d'argent sur le dos des gens, etc. Ce qui n'est plus du tout la réalité. Ça l'était certainement dans les années 80-90 quand personne ne savait rien, mais aujourd'hui c'est une industrie hautement compétitive où chacun essaye de faire au mieux, au plus agressif en termes de prix. Du coup, les prix des jeans ont comparativement au pouvoir d'achat pas mal baissé. Je ne parle pas du segment premium, mais on peut avoir de tout et même de très bonne qualité à tous les prix. Aujourd'hui, que fait l'industrie? Alors, évidemment, l'enjeu numéro un reste l'eau. On peut acheter du coton de BCI, de la Better Cotton Initiative, où déjà là, il y a beaucoup, beaucoup moins d'eau d'utiliser pour le coton qui était planté. On peut ensuite faire des teintures, c'est-à-dire de l'indigo, teindre l'indigo sur le fil sans quasiment utiliser de l'eau. Il y a des fabricants qui présentent aujourd'hui des matières avec zéro utilisation d'eau. Et ainsi de suite jusqu'au délavage qui peut être fait au laser et pas dans les machines à laver. Il y a des fabricants qui aujourd'hui proposent des machines à laver où on injecte juste de la vapeur d'eau et plus des centaines de litres d'eau, etc., qu'on tourne et qu'on retourne. Combien ça pèse en réalité? C'est-à-dire, tout le monde le propose, peu de gens en achètent. Pourquoi? Parce que le consommateur final qui va en boutique, il va avoir le même jean une fois à 9 euros, made in misère, avec tout ce qui est de plus polluant, et une fois ce même jean à 39 euros, voilà, on est toujours dans le super pas cher, hein, mais avec plus de précautions. La question ne se pose même pas, malheureusement. Moi, je dis souvent, c'est super aujourd'hui. L'industrie a absolument tout, à tous les niveaux, pour être écologiquement au top. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le consommateur l'achète. Et je dis, il faut s'imaginer ça un peu comme si, toi, demain, tu veux t'acheter une nouvelle voiture, tu vas chez Renault, et tu veux dire, bonjour, j'aurai une nouvelle voiture. Alors, on te présente une voiture, on te montre l'intérieur, elle montait jusqu'à 200 km à l'heure, et voici le coffre, et là les sièges, etc. Et puis on te dit, bon ben voilà, maintenant vous pouvez acheter cette voiture-là à 15 000 euros. En revanche, ben, il n'y a pas de zone de sécurité en cas d'accident devant, il n'y a pas de ceinture de sécurité, et il n'y a pas d'échappement travaillé, la pollution elle va direct dans l'air. Ou vous pouvez avoir cette même voiture avec un catalyseur, avec des pare-chocs et toutes les normes de sécurité, airbag, etc. Mais 10 000 euros plus cher, eh bien, on sait ce qui se passerait. Le consommateur dirait, bah, tant pis, alors si j'ai un accident, bah, je meurs, mais ça me coûte 10 000 euros moins cher de rouler avec cette voiture. Et je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, non seulement pour le jean, mais pour l'ensemble du textile, il faudrait légiférer, il faudrait rendre certaines choses obligatoires. Il ne faut pas demander au consommateur s'il a envie, lui, d'acheter un produit un peu moins cher qui pollue, ou un produit peut-être un chouïa plus cher qui ne pollue pas.
Ça veut dire qu'il faudrait que les États taxent les produits qui polluent, quoi. Ou interdisent à la vente.
Oui, ou l'interdisent à la vente. Moi, je ne vois pas pourquoi certaines choses aujourd'hui sont interdites à la vente, parce qu'on sait qu'elles sont nocives, on sait qu'elles sont nocives pour la société ou pour la santé, etc. Et pourquoi en textile, on n'y arriverait pas?
Ouais, c'est clair. Et tu sens qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là ou pas du tout?
Non, pas du tout, pas du tout. J'assiste à des séminaires pendant des dizaines et des dizaines de salons où tout le monde réfléchit comment on peut faire, et toutes les options existent. Je veux dire, tout existe. La seule chose, c'est, ben, quand je travaille avec mes fabricants, ils me disent toujours, ben, cette matière-là, on va la proposer une fois avec les options écologiques, une fois sans les options écologiques. En général, ça fait une différence de 20-30 centimes au mètre, donc au tissu. Donc, ce qui veut dire qu'en boutique, ça fera une différence entre 10-15 euros, grand maximum. Il n'y a aucun acheteur, ou quasiment aucun acheteur, qui va prendre le produit avec l'option écologique, parce qu'ils veulent tous économiser le petit sou qui fait que leur produit a le prix d'appel qui sera mieux que celui de la concurrence, etc. Donc si on ne légifère pas, si on ne dit pas aux gens arrêtez de courir dans le mur, je pense que ça va être compliqué.
C'est clair. Toi, pourquoi tu as décidé de dédier ta vie au jean ?
Je sais pas, en fait. Hein. Moi, j'ai dédié surtout ma vie à la mode et au textile, peut-être à ce côté un peu sportswear, streetwear. Après avoir travaillé en tant que styliste sur des robes en mousseline et des matières extrêmement fines et des broderies et des machins un peu dans le milieu du haut de gamme, un jour je me suis retrouvé face à cette matière qui était un peu plus rigide, moi je dis souvent ça se travaille un peu plus comme du bois, on peut sculpter un peu le corps avec parce que quand on coupe bien, ça met bien les choses, enfin la silhouette
en valeur. Ouais.
En valeur. Et c'est ce côté un peu plus rigide, un peu plus rude, un peu plus imprévisible du denim qui m'a tout de suite plu. Aussi ce côté matière vivante qui continue à vivre, le bleu continue à changer quand on le porte, quand on le vit comme il faut, tu vois. Et là, encore une fois, écologie, 80% de l'eau utilisée sur un jean, c'est le lavage ménager, c'est-à-dire c'est les gens qui portent leur jean une fois et le jettent dans la machine à laver. La partie eau de la fabrication, elle est minime par rapport au reste. Et quand on sait qu'au Canada, il y a eu en université des études de fait, et l'être humain normal, hein, je ne parle pas d'activité sportive, génère dans un pantalon autant de bactéries en un an qu'on génère sous les bras dans un t-shirt en un jour, et qu'on sait que beaucoup de gens lavent autant leurs pantalons que leurs t-shirts, c'est là aussi qu'on se dit, mais...
Il faut faire de la pédagogie.
Là aussi, on peut... Ouais, voilà, il faut expliquer, voilà, on peut gagner là aussi.
Donc tu fais partie de ces gens qui ne lavent jamais leurs jeans.
Oui.
T'as bien raison.
Je lave souvent beaucoup les jeans de mes clients, mais les miens, c'est des énormes tas de jeans qui ont rarement vu l'eau. Ouais. Parfois, ils voient un peu l'eau de l'océan.
Ouais.
Donc, si tu me suis sur Instagram, sous monsieur_t_official, tu vas voir que des fois, je baigne certains jeans dans l'océan pour leur donner juste un ocean dip. Mais franchement, ça change pas grand-chose. Hein. Ça les rend un peu plus rigides au début parce qu'il y a le sel qui se met dans la matière, donc c'est plutôt chouette. Mais non, je laisse aérer, etc. Et puis je laisse vivre. Et puis je change souvent le jean pour pas que ça puisse un peu trop devenir trop porter la veille.
Ouais, je comprends. Encore deux, trois questions parce que je sais que tu dois partir, tu dois nous quitter. C'est quoi ton jean préféré, toi ?
Mon jean préféré ? Alors là, actuellement, j'en ai deux. Hein. J'en ai trois. Trois préférés.
Allez.
Alors, il y en a un qui vient de chez Japan Blue. C'est mon ami Tetsu Manabe qui fait ça au Japon, à Kojima. Ils font des matières avec du ring un peu à l'ancienne. C'est un ring horizontal et c'était un double indigo et je le porte et il devient magnifique. Et il est vraiment incroyable. L'autre, c'est un Oni Denim, donc c'est aussi une marque japonaise, très, 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 très costaud aussi. C'est des matières qui sont plutôt avoisinant les 20 OZ. Donc c'est très lourd pour un jean. Il faut vraiment les porter un peu pour que ça devienne quelque chose de chouette. Et c'est un jean que j'ai acheté à Londres chez Son of a Stag, qui est une très très belle boutique que je recommande à tout le monde qui aime le jean de puriste. Là aussi, incroyable, c'est costaud, c'est rigide et ça devient de plus en plus beau. Et puis mon troisième, bah, c'est un jean que j'ai fait il y a 8 ou 9 ans pour Oxbow, la marque Oxbow. Mm-hmm. À l'époque, je leur avais fait un jean en 20 OZ, donc c'était très 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 de lourd, en disant, mais faites un jean pour un vrai surfeur, c'est lui qui a envie de s'acheter dans sa vie une fois un jean et de le porter pour toute sa vie. Mm. Faites un jean tellement costaud qu'il l'accompagne sur tous ses surf trips, dans tous ses coins, etc. Et on en a fait. Ça s'est pas très bien vendu parce que dans les boutiques un peu à l'époque un peu chicoste Oxbow, ça, le message n'est pas vraiment passé. Mais moi j'en ai gardé quelques-uns et j'en porte un et chaque année il devient plus merveilleux et les plus grands connaisseurs du monde entier me courent après en disant mais il est magnifique ce jean.
Génial. Et dernière chose, tu vis à Biarritz. Et c'est pour ça que d'ailleurs on enregistre à distance et c'était un quiproquo au début parce que je pensais que j'allais te voir à Paris. Juste au niveau organisationnel, comment tu gères le fait d'être à Biarritz, comment tu arrives à travailler avec des clients dans le monde entier, comment opérationnellement ça fonctionne?
Alors moi j'ai un métier où je laisse malheureusement une grosse empreinte CO2 dans le monde. C'est-à-dire, je suis très, 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 très souvent dans les avions. Alors, ça m'arrive d'être en un mois, une fois au Japon, une fois en Chine, une fois en Turquie. Enfin, c'est en moyenne, je suis chaque deuxième semaine dans les airs. J'avais mis le bureau à Paris pendant 9 ans. On était vraiment aux portes de Paris. Et j'ai souhaité quitter la région parisienne parce que je trouvais que le Paris d'aujourd'hui n'est plus celui que moi j'avais connu à l'époque du Palace et où on sortait, où c'était vraiment un lieu de fête et de culture, etc. Je trouvais que mes enfants vivaient beaucoup trop les pressions de la vie, du terrorisme, que les grèves et tout ça impactaient beaucoup trop notre qualité de vie. Et donc j'ai dit, s'il y en a un qui doit prendre sur soi dans la famille, c'est bien moi, et quitte à ce que je prends un avion de plus à chaque fois quand je voyage pour aller de Biarritz à Paris ou de Bilbao à Munich ou je ne sais pas où, moi je fais ce petit effort, mais du coup, les enfants et moi-même, dès qu'on sort du travail ou les enfants de l'école, on a l'impression à moitié d'être en vacances et les étés sont merveilleux, après le travail, on va aller surfer et on profite vraiment de la vie.
Génial, ça fait drôlement envie.
En plus, avec le travail 4.0, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai tous les défilés dans mon ordinateur, sur mon téléphone, etc. Donc, oui, parfois, je vais louper une conversation et louper un bon contrat sur Paris parce que je ne suis pas dans la bonne soirée à serrer la bonne main de quelqu'un, mais such is life, c'est un choix de vie.
Très bien. Écoute, merci infiniment, Tilman. Dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Qui je souhaiterais entendre dans ce podcast? On peut pas faire revenir les morts.
Non.
parce qu'il y a une longue liste, mais je pense que j'aimerais bien que tu arrives à faire peut-être, ou peut-être tu l'as déjà fait parler, et je fais une grosse bourde là, mais quelqu'un comme Eddie Slimane, j'aimerais bien l'entendre parler.
Ah non, je ne l'ai pas encore eu, Eddie Slimane. On me l'a demandé déjà plusieurs fois et j'essaye de l'avoir, mais ce n'est pas simple.
Ouais, je m'imagine.
Mais écoute, si tu peux me faire une petite intro à Eddie ou à quelqu'un qui pourrait me faire une intro à Eddie, je suis grandement preneur. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et merci de nous avoir éclairci un petit peu plus sur le monde du jean. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi et pour mieux connaître ton travail?
Alors, moi, je dis aujourd'hui, pour moi, c'est Instagram. C'est le nom de mon entreprise, le mot monsieur, ensuite underscore, ensuite la lettre T, ensuite underscore et ensuite le mot anglais official. Et là, vous trouvez ma page, mes photos, quelques vidéos et un lien pour m'écrire en direct par email. Voilà. Et c'est avec plaisir que je réponds aux questions et que je partage ma passion.
Génial. Merci infiniment, Tillman. À bientôt. Salut.
Merci beaucoup, Adrien. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.